si on peut, dès cette terre, offrir son corps en holocauste d'amour, n'est-ce pas, et faire que ce soit les graisses qui fument, et que Dieu aime l'odeur des graisses qui fument, alors c'est agréable à Dieu, très très bien. On a 15 kilos à perdre pendant le carême, allons-y, dans le 15 kilos à perdre, les graisses qui fondent. On le fait par amour. Si de fait, on sait très bien que c'est tout juste, on ne peut pas faire plus, alors on essaiera de faire porter la 16, une 16 plus intérieure. Là, on peut toujours y aller. Une 16 intérieure, on peut toujours y aller. Alors c'est l'équilibre, vous voyez, du point de vue extérieur et du point de vue intérieur. C'est l'équilibre de ça. Qu'il y ait une ascèse, qu'il y ait une réparation, qu'il y ait, c'est nécessaire, ça fait partie essentielle de notre charité. Nous sommes liés au Christ dans son mystère de rédemption. Si nous sommes liés au Christ dans son mystère de rédemption, nous sommes liés pendant tout le temps du carême, parce que c'est le temps du carême, au mystère de la croix du Christ, d'une manière très particulière. Et alors à ce moment-là, c'est le mystère de réparation, c'est le mystère d'être uni à Jésus qui a porté, comme l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Chacun d'entre nous devons comprendre ce mystère et nous devons faire ce que nous sommes capables de faire sous la mouvance du Saint-Esprit. Oui. Alors c'est normal que ça passe à travers notre corps, puisque nous avons besoin de la sensibilité. Nous avons besoin, notre sensibilité nous aide à éveiller davantage notre amour. Oui, la sensibilité ne sert pas à grand chose du côté des connaissances spéculatives, hein. Tandis que la sensibilité sert beaucoup du côté de l'amour. Alors c'est un signe qui nous aide à manifester davantage. Oui. Et alors je dirais les deux, oui, c'est la double, la charité, la 16 joue doublement, faire que notre corps ne soit plus pour nous un instrument de péché, soit plus pour nous quelque chose qui nous fait glisser vers la pente, mais aussi notre corps doit être lié au corps du Christ, qui a été le locus de la croix. Il y a les deux aspects. Et en même temps, on doit l'aimer. Jésus n'a jamais aimé autant son corps qu'à la croix. Ça, je crois qu'on peut le dire. Jésus n'a jamais aimé autant son corps. Le corps du Christ, alors c'est évident que c'est le corps d'un Dieu. Mais Jésus nous montre le modèle. Il a voulu avoir une chair humaine et il l'a aimé. Et Marie a aimé le corps du Christ de cet amour. Oui. Donc là encore, il y a un discernement, c'est sûr. Les principes que donne saint Thomas sont nets, sont clairs, mais l'application est très difficile, parce que c'est très difficile pour nous de faire ce partage à l'intérieur même de nous. Qu'est-ce qui actuellement dans notre sensibilité, dans notre corps, on est, et ce qui, que nous devons garder pleinement dans la lumière de Dieu, et dans notre sensibilité, ce que nous devons un peu mater. C'est pas commode. L'aspect artistique qui est en nous, si vous voulez, parce qu'au fond, c'est ça. L'art maintient une dimension de sensibilité plus grande. Un artiste est un être qui cultive sa sensibilité. Un sportif est un être qui cultive son corps. Bon, alors, ceci dans la lumière de la charité. Alors, si je mets dans la lumière de la vie monastique, c'est carré, n'est-ce pas ? C'est sûr, mais dans la lumière de la charité, il faut comprendre que la sensibilité ne doit pas être détruite, mais que la sensibilité demande d'être purifiée. Notre corps ne doit pas être détruit. On n'a pas à mater son corps avec une espèce de haine vis-à-vis du corps. On a une haine vis-à-vis du péché, mais pas vis-à-vis du corps, on doit l'aimer. Et on doit apprendre à l'aimer, ce qui n'est pas toujours commode. Et donc empêcher qu'il soit un instrument. Ça va être encore, je lis ça encore, peut-on parler de charité et conscience de la charité chez un non-baptisé, n'est-ce pas ? Croissance de la charité chez un non-baptisé. Ah, ça dépend. Alors ça, c'est tout le problème de la grâce chez ceux qui ne sont pas baptisés. Venez. Quelqu'un est de bonne volonté, et sûrement qu'il a la grâce de Dieu. Paix aux âmes de bonne volonté, même s'il n'est pas baptisé. Et donc il a la charité. Mais il n'a pas une charité souvent explicite. Il a une charité implicite. Alors là, hein?
Vous voulez expliquer implicite et explicite.
Ah oui, ça c'est bien. Quoi, implicite, explicite, oui. C'est comme celui qui n'est pas baptisé et qui ne connaît pas le Christ, ou bien qui connaît le Christ de loin sans le connaître. Il peut être une âme de... Il peut avoir la grâce, il peut donc avoir la charité sans connaître le Christ. Ça, c'est une charité donc non explicite. Tandis que celui qui connaît le Christ sait qu'il aime à cause du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Les théologiens ne sont pas d'accord.
Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Dites. Ça m'intéresse. Dites, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il faut le dire tout le monde. Hein.
Non, mais je peux dire des
bêtises. Ah bon, bon. Oui.
Mais est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que l'amour naturel est toujours un amour de charité ? Il n'est pas passionné ?
L'amour naturel était toujours un... Alors, l'amour naturel, hein, l'amour que nous avons les uns pour les autres naturellement, pour un chrétien, il est tout de suite assumé. Bon, pour un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le mystère du Christ, mais qui est une âme de bonne volonté, je suis persuadé qu'il a la grâce. Et donc, il a la charité. Parce qu'il n'y a qu'une seule grâce, la grâce chrétienne. Donc, il a la grâce de charité. C'est pour ça que... Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours très difficile, pris abstraitement. Mais quelqu'un qui est quelqu'un de bonne volonté, mais il est dans l'état de grâce. Et donc, l'amour naturel qu'il a pour les autres est un amour qui est assumé par la charité. Même si, encore une fois, il n'explicite pas pleinement, mais en acte, c'est la différence. L'explicite regarde, vous voyez, le point de vue... du motif. Donc c'est du côté de la connaissance. Tandis que l'acte, c'est du côté de l'exercice. Alors la charité est présente, mais n'est pas explicitée quant à son motif chrétien.
Est-ce que ça donne quelque chose de plus du côté de la charité ?
Quoi ?
Est-ce que ça donne quelque chose de plus ?
Ça permet d'aller beaucoup plus loin.
Oui.
Une charité qui s'explicite dans le Christ nous permet d'être en union avec le Christ et d'aller beaucoup plus loin parce que nous savons que le Christ est là. Tandis que quelqu'un qui aime, alors il peut y avoir une espèce d'amour de Dieu extraordinairement grand, c'est peu, c'est vrai, mais c'est plutôt exceptionnel. Alors, vous voyez, et je crois que très vite, s'il est vraiment de charité, d'une façon ou d'une autre, il y aura le mystère du Christ qui interviendra. Faut arrêter, on verra ça demain. Parce que...
février 1983, deuxième conférence.
De mort, mais nous continuons. Il faudra peut-être un jour venir. Article 7, les pécheurs s'aiment-ils eux-mêmes ? Il est dit dans le psaume, celui qui aime l'iniquité est son âme. S'aimer soi-même est en un sens commun à tous. Et en un autre sens, c'est le propre des bons. Et dans un troisième sens, c'est le propre des méchants. Il est en effet commun à tous d'aimer ce qu'ils regardent comme leur être propre. Or, l'homme est dit être quelque chose de deux manières. d'abord selon sa substance et sa nature, c'est ainsi que tous estiment comme un bien qu'il leur est commun d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire composés d'âme et de corps. En ce sens, tous les hommes bons et mauvais s'aiment eux-mêmes en ce qu'ils aiment leur propre conservation. Donc on s'aime, j'allais dire, ontologiquement, en tant qu'on est un être qui implique l'esprit et le corps, en tant qu'on est créé à l'image de Dieu. On est bon. Dieu a dit « valde bonum ». On peut sembler quelquefois que c'est curieux quand on regarde le voisin, mais on se dit « c'est quand même valde bonum ». Il faut toujours se dire ça. C'est valde bonum. L'homme, c'est valde bonum. Et le péché n'a pas touché ça. On reste quelque chose qui est bon, fondamentalement, dans notre substance, dans notre nature. C'est Luther qui avait dit que l'homme, à cause du péché, était radicalement mauvais. Alors évidemment, on ne pourrait pas s'aimer de cet amour-là. Et ça, tout homme s'aime de cette manière-là. En second lieu, l'homme est dit être quelque chose parce qu'il a de principal en lui. C'est ainsi qu'on dit du chef d'une cité qu'il est la cité elle-même. D'où vient que ce que font les chefs, c'est la cité qui est censée le faire. La partie principale, hein, comprenez bien. Pars principalis est totum, hein, ce que dit saint Thomas de temps en temps. La partie principale, c'est le tout. Saint Thomas dit ça pour la vie contemplative, hein, que la vie contemplative est dans l'Église la partie principale, donc elle est le tout de l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ça donne une grande responsabilité à la vie contemplative par rapport à l'Église. La vie contemplative est la partie principale de l'Église. Et donc, si la vie contemplative est la partie principale de l'Église, elle est le tout. Alors, c'est très important ce petit principe que saint Thomas aime d'employer du reste. L'homme est dit quelque chose par ce qu'il a de principal en lui. Le contemplatif, c'est celui qui considère que ce qu'il y a de principal en lui, c'est l'union avec Dieu. Or, cette union avec Dieu se fait par la charité. C'est pour ça que la vie contemplative, c'est une vie qui développe en nous la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité doit être développée d'une manière tout à fait principale dans la vie contemplative. Parce que justement, le propre de la charité, c'est de nous unir à Dieu. Alors quand je dis, voyez, que l'acte propre de la charité, c'est l'oraison, comprenez oraison au sens de l'union avec Dieu. Non ? Il ne faut pas prendre l'exercice d'oraison, ce serait très faux ça. C'est l'oraison nous unit avec Dieu. Donc toute notre vie en tant que contemplative tend vers Dieu et elle est commandée par la charité. Une vie contemplative doit être au rythme de la charité. Autrement, elle n'est pas une vie contemplative. Au rythme de la charité, dans son mouvement premier, le plus foncier, qui est d'aimer Dieu. Et d'aimer le prochain. C'est pour ça que le contemplatif doit aimer le prochain d'un amour éminent, puisque c'est dans cet amour qu'il a vis-à-vis de Dieu qu'il aime le prochain. Et nous le verrons, le don de sagesse permet à la vertu de charité de s'exercer divinement. Et le don de sagesse, saint Thomas nous dit, habitus contemplativus. Donc le don de sagesse permet à la charité de se développer d'une manière contemplative. Et alors ça nous fait saisir ce qu'il y a de premier dans le mystère de toute l'Église, le développement divin de la charité. Puisque c'est ça la vie contemplative. Dans une vie contemplative, tout est ordonné à l'exercice divin de la charité. L'exercice le plus éminent de la charité. Tout, absolument tout. Mais voyez, peu importe ce que nous faisons, ça n'a pas d'importance. Tout peut être orienté vers cela. Il y a des matières différentes, il y a des exercices différents, mais tout est ordonné à cette union avec Dieu. Tout est polarisé par cette union avec Dieu. Et on demande à l'Esprit Saint de faire que l'exercice de la charité soit de plus en plus sous la mouvance du don de sagesse. Donc en second lieu, l'homme est dit être quelque chose par ce qu'il a de principal en lui. C'est ainsi qu'on dit du chef d'une cité qu'il est la cité elle-même. Oui, vous voyez ça, président de la République, c'est la cité elle-même. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, c'est tout le monde le fait. Hein. Comprenez bien. C'est pas ça que ça veut dire. Le chef de la cité, en tant que chef, c'est-à-dire en tant qu'aimant particulièrement le bien commun de la cité, en tant que faisant que tout dans sa prudence soit ordonné vers le bien commun. C'est le propre du chef. Un chef, c'est celui qui regarde plus que personne d'autre le bien commun. C'est ainsi qu'on dit du chef d'une cité qu'il est la cité elle-même. D'où vient que ce que font les chefs, c'est la cité qui est censée le faire. Or, de cette manière, tous les hommes ne pensent pas être ce qu'ils sont. En effet, ce qui est principal dans l'homme, c'est l'âme raisonnable. Ce qui est secondaire, c'est la nature sensible et corporelle. La première de ces choses étant appelée par l'apôtre l'homme intérieur, la seconde l'homme extérieur. Or, les bons estiment comme principal en eux la nature raisonnable. Et aujourd'hui, on dirait l'esprit, hein, la partie spirituelle en eux. Alors ça, c'est le langage de saint Thomas. Il faut un petit peu rectifier, parce que la partie raisonnable en nous, ça ne dit pas du tout ça. On pense à la raison, on ne pense plus du tout. C'est ceux qui sont dans la logique qui sont les meilleurs, vous voyez. C'est pas ça. La logique, c'est la partie raisonnable. Tandis que la partie spirituelle, on voit bien ce que ça veut dire. C'est la partie spirituelle. Et je crois qu'il faut bien comprendre cela. Donc, les bons. Or, les bons estiment comme principal en eux leur nature spirituelle. Ou l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est tout de suite le cœur, hein. Vous voyez, tandis que quand on parle de la nature raisonnable, on ne pense pas à ça. Ou l'homme intérieur. Et pour cela même, ils s'estiment tels qu'ils sont. Mais les méchants croient que le principal en eux, c'est la nature sensible et corporelle. Ou l'homme extérieur. C'est pourquoi, ne se connaissant pas eux-mêmes de façon exacte, ils ne s'aiment pas vraiment. Mais ils aiment seulement ce qu'ils prennent pour eux-mêmes. Au contraire, les bons, qui ont d'eux-mêmes une connaissance vraie, s'aiment vraiment eux-mêmes. Un contemplatif doit s'aimer en tout sens qu'il aime ce qui en lui est le principal. Et le principal pour lui, c'est d'être uni à Dieu. Et donc il s'aime vraiment. Parce qu'il aime vraiment ce qui en lui est meilleur. Vous voyez, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la vie monastique unifie l'homme. Hein. On revient à ce problème de l'unité. Parce que c'est là, voyez-vous, touchez le principe. On aime en soi ce qu'il y a d'essentiel et de principal. Si on aime en soi ce qu'il y a d'essentiel et de principal, on s'unifie. Il y a une unité qui se fait. Tandis qu'au contraire, chez le méchant, il n'y a pas d'unité. Puisqu'il aime en lui ce qui n'est pas le principal. Donc il y a un hiatus, il n'y a pas d'unité, il y a de l'anarchie. On s'en aperçoit au bout de quelques années de vie religieuse, vous voyez, que c'est vrai, il y a une espèce d'harmonie profonde qui se fait en nous, parce que nous aimons avant tout ce que Dieu aime en nous de principal. Nous arrivons à avoir les mêmes goûts que Dieu. Et c'est vrai, ça. Un contemplatif a les goûts de Dieu. Il aime toutes choses comme Dieu les aime. Et il s'aime comme Dieu l'aime. Alors à ce moment-là, il y a une unité très profonde. Il y a une harmonie très profonde qui se fait en lui. Et c'est ça, je crois, dans toutes les pères de l'Église, l'unification du moine, c'est ça. C'est parce qu'il a les mêmes goûts que Dieu. Petit à petit, progressivement, avoir les mêmes goûts que Dieu fait que quelque chose qui s'unifie en nous profondément. Aristote le démontre par les cinq conditions qui sont propres à l'amitié. Alors Aristote qui vient au secours de saint Paul, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Chacun des amis. Du reste, il ne faut pas oublier que l'homme intérieur et l'homme extérieur de saint Paul, hein, les stoïciens, en l'an 50 après Jésus-Christ, Épictète, parlent de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Alors nous croyons que c'est un langage purement... Non, il faut bien voir que c'est aussi un langage qui est le langage de ce temps. C'est très très beau du reste. Mais alors évidemment qui est donné dans la révélation et qui prend une autre valeur. Mais il y a aussi ce support qui était à l'époque même de saint Paul, il ne faut pas l'oublier, c'était la grande philosophie du temps de saint Paul, c'était le stoïcisme. Et Épictète, qui est l'esclave devenu philosophe, en sorte qu'il est tout à fait à l'ordre du jour. Épictète, l'esclave devenu philosophe, eh bien, fait cette distinction fondamentale dans sa philosophie de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. La liberté de l'homme intérieur, la liberté de l'homme extérieur, en riant de la liberté de l'homme extérieur. Il dit ça au sénateur. Vous croyez être libre ? Eh bien, vous ne pensez qu'aux élections. Vous voyez bien que vous n'êtes pas libre. Un homme libre, c'est celui qui ne dépend pas des autres. Hein, vous dépendez des élections. Et vous agissez en dépendance des élections. Mais c'était tellement actuel. Hein. L'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est extraordinaire. Et c'est vrai dans une perspective philosophique, et c'est éminemment vrai dans une perspective divine. C'est évident qu'un moine, c'est un homme intérieur. Et donc c'est celui qui, du côté de l'extérieur, mais c'est secondaire, c'est très secondaire. Et de plus en plus, on est intériorisé. Et on s'intériorise de plus en plus. Et c'est en s'intériorisant de plus en plus qu'il y a une unification profonde qui se fait en nous. Aristote le démontre par cinq conditions qui sont propres à l'amitié. Chacun des amis, en effet, veut l'existence de son ami. Et qu'il vive. Ça, c'est élémentaire. Hein. Parce que si l'ami veut que l'ami disparaisse, c'est un drôle d'ami, c'est évident. Donc, veut l'existence de son ami et qu'il vive. Il lui veut du bien. C'est évident. Il lui fait du bien. Troisième condition. Il vit avec son ami dans la joie. La présence de l'ami procure de la joie. Tandis que, au contraire, la présence d'un être nous procure de la tristesse, ça prouve que c'est pas très un ami, n'est-ce pas ? Cinquièmement, il n'a qu'un cœur avec lui, partageant ses joies et ses tristesses. Aristote dit, n'est-ce pas, que l'ami, c'est un autre soi, nous-mêmes. Donc on n'a qu'un cœur avec lui. C'est très beau, du reste, cette manière dont saint Thomas résume, d'une manière très étonnante. C'est tout le traité de l'amitié ici qui est résumé de façon très très forte. Or, c'est ainsi que les bons s'aiment eux-mêmes quant à leur homme intérieur. Ils veulent sa conservation dans son intégrité. Ils désirent pour lui son bien, qui est le bien spirituel. Ils s'emploient à le lui procurer. Ils rentrent avec joie dans leur cœur. Ils aiment de se retrouver dans la solitude. Ils rentrent avec joie dans leur cœur, y trouvant les bonnes pensées du présent, le souvenir des biens passés et l'espoir des biens futurs. C'est merveilleux. Toutes choses qui les remplissent de joie. De même, il n'y a pas en eux de discorde dans leur volonté, car leur âme est entièrement unifiée dans ces tendances. Vous voyez, unifiée. Elle n'est pas une, elle est unifiée. Donc la cause de l'unité est extérieure. Mais alors lui est unifié. Il est pris par justement ce qui peut faire cette unité. Tout au contraire, Les méchants ne veulent pas conserver l'intégrité de leur homme intérieur. Ils n'aspirent pas pour lui au bien spirituel. Et ils ne travaillent pas en ce sens. Il n'aurait pas agréable de vivre avec eux-mêmes. Leur regard, hein, en faisant retour à leur cœur, car ils y trouvent le malheur, tant présent que passé et futur. Ils ne peuvent que le détester. Ils n'ont pas non plus la paix avec eux-mêmes, puisque leur conscience est remplie de remords. Selon la parole du psaume, alors le psaume qui vient confirmer Aristote, « Je t'accuserai, je me tiendrai en face de toi. » C'est merveilleux, mais ça c'est du saint Thomas tout pur. Il prend son bien là où il est. C'est la simplicité des enfants, ça. Oui, aujourd'hui, nous, on dirait pas plus ça du tout. On ferait grande attention, on mettrait des gants. D'accord, parce qu'on mettrait des... Là, non. Enfin, on est en chrétienté. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. On est en chrétienté. Alors, comme saint Augustin le disait, le chrétien, le catholique, c'est celui qui prend son bien partout où il est. Il n'y a pas de hier. Le catholique, c'est celui qui considère que toute vérité lui appartient. C'est merveilleux, ça. Donc, il prend la vérité partout où elle est. C'est juste l'inverse d'un homme, d'un système. C'est juste l'inverse d'une chapelle. Il prend son bien partout où il est. Il est catholique. Catholique d'intelligence, catholique de cœur. Alors, il sait où il trouvera davantage la vérité. Ah oui, ça, il ne faut pas être naïf. Il sait. Il sait où il trouvera davantage son bien. Mais il le prend partout où il est. Alors, vous voyez la confirmation d'Aristote après. Aristote est très bien placé. Au ciel, il doit sourire de voir ça. Il est placé dans la charité, le traité de la charité. Il est placé là pour confirmer que le bon aime en lui ce qu'il y a de meilleur, alors que le méchant est tiraillé, il est divisé, il ne peut être que divisé. Parce qu'il ne peut pas se souhaiter pour lui-même ce qu'il y a de meilleur. Et puis alors ensuite, le psaume qui vient confirmer, « Je t'accuserai, je me tiendrai en face de toi. » Vous voyez, comme les psaumes sont cités beaucoup pour les méchants, hein, c'était très très curieux. Beaucoup plus que pour les... Pas entièrement, mais quand même, hein, ce passage. « Celui qui aime l'iniquité haït son âme. » Et puis ici encore, « Je t'accuserai, je me tiendrai en face de toi. » On peut aussi prouver de la même manière que les méchants s'aiment eux-mêmes selon la corruption de l'homme extérieur. Mais ce n'est pas ainsi que s'aiment les bons. Donc les méchants aiment en eux ce qui est secondaire, ce qui est périphérique, on dirait aujourd'hui, tout ce qui est périphérique. Le méchant ne peut aimer que ce qui est secondaire, et le bon aime en lui ce qui est meilleur. Alors, prenons tout de suite les objections. Oui, semble-t-il, car ce qui est le principe du péché se trouve surtout chez les pécheurs. Or, l'amour de soi est le principe du péché. C'est lui, nous dit saint Augustin, qui construit la cité de Babylone. Hein, les deux amours, l'amour de soi et l'amour de Dieu, vous savez bien, comme dit saint Augustin. Et l'amour de soi construit la cité de Babylone. Donc, ce sont surtout les pécheurs qui s'aiment eux-mêmes. Ça, c'est une très belle objection. Le propre du péché, c'est d'aimer sa propre volonté. Puisque c'est la propre volonté qui est source de tous les péchés. Donc, c'est le pécheur qui s'aime le plus. Et il est le plus à l'aise avec lui-même. Réponse de saint Thomas. L'amour de soi, amor sui, l'amour de soi, qui est le principe du péché, est celui qui est propre au méchant, et qui va jusqu'au mépris de Dieu, comme saint Augustin le dit, au même endroit. Car les méchants désirent les biens extérieurs au point de mépriser les biens spirituels. Donc il faut bien comprendre que l'amour de soi peut avoir des modalités différentes. Ça, c'est une des choses les plus équivoques, hein.
C'est un peu le ténèbre, là.
On va laisser tout ça. Tant pis. Non, laissez, c'est bon. L'amour de soi, peut-être l'amour de soi, de ce qui en nous est le meilleur. L'amour de soi peut être l'amour de notre propre volonté. Quand c'est l'amour de soi, de ce qui est le meilleur en nous, très bien. Vous voyez, au fond, c'est tout l'équivoque de l'amour de soi, la contemplation de soi. C'est très très délicat, hein, parce que le même mot va exprimer deux choses totalement différentes. Aristote parle de l'amour de soi, en disant que dans l'amour d'amitié, il faut d'abord s'aimer. Et que si on ne s'aime pas, on ne peut pas vraiment aimer l'autre. Il y a une certaine priorité. Une certaine priorité, c'est très délicate. Il y a une certaine priorité dans l'amour à l'égard de nous-mêmes. Vous voyez, c'est la différence avec l'intelligence. L'intelligence regarde d'abord l'autre, puis on se regarde. Tandis que dans l'amour, il y a une proximité de soi qui est telle qu'il y a un certain amour de soi, qui est bon du reste. C'est aimer nous-mêmes, dans ce qu'il y a de plus nous-mêmes. Donc c'est aimer notre esprit, c'est aimer ce qui est en nous de positif. Tandis que l'amour de soi, alors, tel que saint Augustin en parle ici, c'est l'amour de soi en tant que c'est aimer sa propre volonté. Mais aimer notre propre volonté, c'est pas nous, hein. Heureusement. Nous avons autre chose que notre propre volonté. Et alors l'amour de soi qui se ramène uniquement à l'amour de sa propre volonté est un amour qui nous rétrécit à nos propres yeux et fait qu'au bout d'un certain temps, on méprise tout ce qui n'est pas soi. Mais c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. On s'enferme dans une prison dorée qui est notre propre volonté. Alors, la seconde objection. Le péché ne détruit pas la nature. Or, il est de la nature de tout être de s'aimer soi-même. C'est ainsi que même les créatures non raisonnables désirent naturellement leur bien propre, comme la conservation de leur être ou autre chose de ce genre. Les pécheurs s'aiment donc eux-mêmes. Réponse. L'amour naturel. Alors ici, amor naturalis. Avant, c'était amor sui. L'amour naturel. S'il n'est pas totalement détruit dans les méchants, s'y trouve cependant perverti de la manière qui vient d'être dite. Donc l'amour naturel chez le pécheur est perverti dans un amour de sa volonté propre. Alors, troisième objection, le bien, dit Denis, est aimable à tous. Or, beaucoup de pécheurs se croient bons. Donc beaucoup de pécheurs s'aiment. Pour autant qu'ils se croient, mais ça c'est la psychologie de saint Thomas par rapport aux méchants, mais voilà, une psychologie assez particulière. Saint Thomas n'a pas tellement l'expérience du méchant. Je ne sais pas s'il a entendu beaucoup de confessions de bandits. Je ne vois pas très bien saint Thomas avec ayant la confession beaucoup de bandits. Il a consacré sa vie entièrement à l'étude, saint Thomas. Alors, il a lu saint Augustin. Saint Augustin avait beaucoup plus d'expérience du méchant. C'est sûr que saint Thomas, c'est pas tout à fait le même genre. Pour autant qu'ils se croient bons, les méchants participent en quelque chose à l'amour de soi. Là, c'est très... Mali in quantum estimant sebonum. Sic aliquid participant amor sui. Il y a toujours chez le méchant un certain quelque chose qui reste bon. Leur existence, leur nature. Donc il y a quelque chose qui reste de l'amour de soi. Mais s'il n'y a pas là un véritable amour de soi, mais seulement un amour apparent, lequel même n'est plus possible chez ceux qui sont foncièrement mauvais. Quod etiam non est possibilis, Ineis qui valde sunt mali. Ceux qui sont foncièrement mauvais peuvent très bien, au dire de ce que dit saint Thomas ici, ne plus avoir un amour véritable de soi. Tellement la nature en eux peut être comme enfouie par leur mauvaise volonté. Alors, faisons attention, parce qu'alors là, on joindrait, hein, on pourrait rejoindre Luther. Hein, vous voyez ? Alors, il faut bien comprendre. Luther le dit au niveau ontologique, saint Thomas le dit ici au niveau estimation, donc au niveau psychologique. Parce qu'au fond, quand saint Thomas dit s'estime, hein, c'est le point de vue de la connaissance qu'ils ont, c'est pas un point de vue naturel. Estimante, c'est bonum. Estimante, c'est bonum, c'est bien, c'est vraiment le point de vue psychologique. Il s'estime bon. S'estimer bon, c'est pas moral, hein, vous comprenez bien, parce qu'on a dit mal, il est mauvais. Il s'estime bon. Donc c'est psychologiquement. Psychologiquement, quelqu'un qui vit vraiment foncièrement dans le mal peut encore s'estimer bon. Mais saint Thomas a dit que s'il vit tellement dans le mal, il ne peut même plus s'estimer bon. Donc psychologiquement, il peut plus. Vous voyez la confusion du point de vue psychologique et du point de vue ontologique chez Luther. Psychologiquement, ce que dit Luther au niveau ontologique ne serait pas si mauvais au point de vue psychologique. Parce qu'il peut se faire que des méchants, que le péché arrive à corrompre d'une manière telle l'homme que l'homme peut très bien ne plus s'estimer bon. Qu'il n'arrive plus à s'estimer bon. Alors, à ce moment-là, il y a comme une corruption radicale de la nature. Mais ce n'est pas une corruption ontologique. Il peut toujours se convertir. Tandis que pour Luther, il ne peut pas se convertir. Il est revêtu de l'amour de Dieu, mais il reste corrompu. Tandis que pour saint Thomas, il maintiendrait toujours qu'il peut toujours se convertir. Il y a toujours une possibilité métaphysique. On peut passer à l'article suivant, pas de difficulté. Vous n'avez pas la psychologie de méchant, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. Si c'était bon, vous auriez des tas d'histoires à raconter. Tandis que de ce côté-là, hein, pas beaucoup d'expérience. Bon, article 8. La charité oblige-t-elle à aimer ses ennemis ? Alors, ça c'est plus proche. Hein ? Le Seigneur dit « Aimez vos ennemis ». C'est un article très important. Vous allez voir les petites distinctions que saint Thomas va faire, qui est très très important. Aimer ses ennemis peut s'entendre de trois manières différentes. Vous voyez comme c'est important, hein? Très important. Ça. D'abord dans le sens qu'on les aime en tant qu'ils sont ennemis. Cela est mal et répugne à la charité. Car c'est aimer le mal d'autrui. Aimer les ennemis en tant qu'ils sont des ennemis, c'est mauvais. C'est contraire à la charité. Parce que vous ne pouvez pas aimer le mal. On ne peut pas aimer le mal. C'est sadique. Alors, aimer ses ennemis, ce n'est pas être sadique. Ce n'est pas aimer quelqu'un qui... Non, pas du tout. L'amour de charité est lucide, puisque c'est un amour divin. Il ne confond pas, il distingue dans la lumière même de Dieu. En second lieu, on peut envisager l'amour des ennemis eu égard à leur nature et universellement. De ce point de vue, l'amour des ennemis est de nécessité de charité, en ce sens que celui qui aime Dieu et le prochain ne doit pas exclure de l'universalité de son amour du prochain ses ennemis. Je dois aimer tous les hommes de charité, y compris mes ennemis. Enfin, troisièmement, et c'est le point le plus délicat, l'amour des ennemis peut être envisagé comme particularisé ou comme le mouvement spécial d'amour que quelqu'un aurait envers son ennemi. Une telle chose n'est pas nécessaire à la charité de façon absolue, parce qu'il n'est pas nécessaire à cette vertu que nous ayons une dilection spéciale à l'égard de chacun de nos semblables, quel qu'il soit, ce qui serait impossible. Toutefois, cette dilection spéciale à l'état de disposition dans l'âme, c'est secundum preparationem animi, j'aime bien l'expression latine, parce que disposition, ça ne dit pas tout à fait la même chose. J'aime mieux preparationem animi. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. La disposition, c'est quelque chose qui prend le point de vue plus formel. Tandis que la préparatio animi, c'est être tout proche. On est au seuil. Hein? Il y a quelque chose de plus. Et c'est très difficile à traduire. Préparatio animi. C'est pour ça que je vous le dis, le texte latin, là, me semble beaucoup plus précis. Toutefois, cette direction spéciale à l'état de préparation de l'âme et de nécessité de charité, en ce sens que l'on soit prêt à aimer un ennemi, en particulier dans un cas de nécessité. Vous le rencontrez sur le bord de la route, hein, il agonise, vous devez vous arrêter et l'aider à ne pas mourir. On va pas dire, oh, enfin, je n'ai pas tué, mais c'est un autre qui l'a tué, c'est bon débarras. Merveille, hein. La providence est là. Et Dieu à mon goût. Hein. Alors, c'est très bien. Je suis en train de ne pas le voir. Ou bien, je sais que mon ennemi, il y a quelque chose de miné là. Je vois un ennemi qui passe. Est-ce que je vais lui... le prévenir, là, que c'est dangereux. Préparationner à nous, c'est très très important. Toutefois, cette direction spéciale à l'état de disposition dans l'âme, de préparation de l'âme, est de nécessité de charité. En ce sens que l'on soit prêt à aimer un ennemi, en particulier dans un état nécessaire. Il faut faire grande attention à ça, surtout pour les gens scrupuleux. Parce que n'imaginez pas, hein, ah, qu'est-ce que je ferais devant ce type que je ne peux pas supporter si jamais je m'étais trouvé dans lui. Mais, alors on s'imagine et on dit, ah, je ne serais pas prêt du tout. Donc, je ne suis pas en état de charité, je ne vais pas. Vous voyez, ce n'est pas ça. La grâce vous est donnée sur le moment. Donc, on ne doit pas imaginer. C'est très important, ça. Imaginez en disant, vous voyez, quelqu'un qui vraiment nous a joué des tours pendables, hein, c'est quelqu'un qui vraiment est pour nous un ennemi, qui nous en veut à mort, quoi, tout simplement, qui nous a menacés déjà plusieurs fois. C'est pas commode. Hein. Mais qu'en dehors du cas de nécessité, quelqu'un témoigne par des actes de l'amour qu'il a pour son ennemi, cela appartient à la perfection de la charité. Vous voyez ça ? On est en face de quelqu'un qui est de deux, trois. Bah, c'est une situation de triangle pour ça, n'est-ce pas ? Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre que nous connaissons beaucoup de mal d'un de nos ennemis. Il est très facile d'en rajouter. Il serait héroïque d'aller au-devant et dira pas du tout. Vous vous trompez, il y a autre chose en lui. Mais, perfection de la charité. Puis on peut aussi se taire. C'est pas moi qui ai mis ce sujet, je me tais, parce que j'aime mieux me taire. Mais en se taisant, on ne pécherait pas. Mais ce ne serait pas la perfection de la charité. Et puis en y rajoutant, alors là, ce n'est pas la perfection de la charité, bon. C'est se laisser contaminer et emporter. En effet, puisque la charité fait aimer le prochain pour Dieu, plus on aime Dieu, plus on témoigne d'amour au prochain, sans tenir compte de son inimitié. Sans tenir compte de son inimitié. Quanto aliquis magis diligit deum, tanto etiam magis ad proximum dilectionem ostendit, nulla inimicitia impediente. On met entre parenthèses, c'est la mise entre parenthèses de toute l'inimitié qu'on a contre lui, et on regarde en lui l'homme capable d'être aimé de Dieu. Ainsi en est-il, lorsqu'on a un grand amour pour un homme en particulier, à cause de cet amour, on se prend à aimer ses enfants, même s'ils sont nos ennemis. Ça arrive de temps en temps en famille. Vous voyez, c'est des choses, situations de famille que saint Thomas devait connaître. Et c'est d'un tel amour que saint Augustin a voulu parler dans la première difficulté. Alors, on va voir les premières difficultés. C'est très beau, vous voyez, la triple distinction. Et c'est très juste, ça correspond à quelque chose qui est très très important. On ne doit pas aimer l'ennemi pour l'ennemi. Ça, c'est net. On doit aimer universellement tous les hommes, la catholicité, sans exclure personne. On doit aimer d'une manière particulière pour la perfection de la charité. On ne doit pas chercher, vous voyez ? On ne doit pas chercher, il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu, sauf si vous êtes poussé, alors vraiment, par le Saint-Esprit. On ne doit pas tenter Dieu. Vous voyez, c'est le cas classique pour vous, ça existe moins, parce que ces choses-là, mais on doit conseiller de temps en temps les gens. C'est le cas classique de quelqu'un qui